RFI, il est 21h30 à Kigali et à Bujumbura et à Paris, 19h30 en temps universel et à Bamako.
Sylvie Berruet.
Après l'Ouganda et le Burundi, Maxime Prévost est arrivé ce dimanche à Kinshasa. Le ministre belge des Affaires étrangères poursuit sa tournée en Afrique centrale. Objectif, relancer la diplomatie belge dans le conflit dans l'est du Congo. Vous entendrez l'inquiétude des jeunes au sein de la classe politique au Mali. Réunis en collectif, ils craignent la fin du pluralisme. Un terrain d'entente entre les principaux opposants bissau-guinéens. Voilà l'aboutissement de 3 jours des leaders de l'opposition qui se sont réunis à Paris. Et puis les sports, le cyclisme avec le départ demain depuis Niki dans le nord du Bénin de la 20e édition du Tour cycliste. En Afrique centrale, la tournée du ministre belge des Affaires étrangères se poursuit après l'Ouganda et le Burundi. Maxime Prévost est donc arrivé ce dimanche dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Il souhaite renforcer l'engagement diplomatique de la Belgique en faveur d'une solution durable dans le conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Élément de réponse avec Passion Ligoti.
Maxime Prévost a salué la déclaration de principe signée à Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que le communiqué conjoint avec la FCM23 visant à travailler pour parvenir à une trêve. À Kinshasa, il entend mettre l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit, le respect de l'intégrité territoriale de chaque État et la fin de tout soutien extérieur aux groupes armés, la promotion d'une économie transfrontalière formelle, encadrée et équitable, deux axes qui rejoignent d'ailleurs les engagements pris dans la déclaration de Washington. Le ministre belge insiste également sur 2 points régulièrement soulevés par Kigali, la question de réfugiés avec un retour volontaire, sécurisé et digne, la lutte contre les FDLR avec la fin des toutes collaborations entre ses groupes armés et l'armée congolaise ou d'autres milices. Enfin, Maxime Prévost va souligner l'urgence de réformer l'armée congolaise pour qu'elle assure pleinement son rôle de garante de la souveraineté et de la sécurité de population. C'est dans ces contextes qu'a repris la coopération militaire entre la Belgique et la RDC. Interrompue début 2017, elle a été relancée. Une 30aine d'instructeurs belges du régiment d'opérations spéciales sont déployés à Kindu, dans le camp de Luama, pour former la 31e brigade de réaction rapide de l'armée congolaise. Son premier bataillon est déjà actif dans l'est du pays.
L'inquiétude de la classe politique au Mali, un collectif de jeunes leaders issus de formations politiques de la société civile ont signé ce dimanche un communiqué dans lequel ils font part de leur attachement aux principes démocratiques reconnus et garantis par la Constitution. Une déclaration qui intervient au lendemain d'une conférence de presse de plusieurs dizaines de partis politiques maliens et tous s'inquiètent d'un projet de dissolution de leur formation. Parmi les signataires de cette déclaration, Amidou Doumbia, il est secrétaire politique du parti Yelema et porte-parole des signataires.
Nous avons quand même comme objectif d'élargir un peu le camp, parce que avec les formations politiques, il y a certains peut-être qui auront du mal à rejoindre, alors que le pluralisme politique, la démocratie, il y a les acteurs de la presse, il y a des acteurs de la société civile, et tous les acteurs sont concernés dans le combat pour le respect de la Constitution, pour le respect du pluralisme. Vous devez être au courant que des discussions sont au Mali aujourd'hui où certaines conclusions parlent de dissolution des partis politiques. Donc il est important pour nous d'élever la voix, parce que de l'autre côté, il y a des jeunes qui se sont levés et qui ont parlé au nom de tous les jeunes du Mali. Et donc en restant inerte, nous leur donnons un boulevard pour influer l'opinion, alors qu'en réalité, la majorité de nos compatriotes sont aujourd'hui pour le respect de la Constitution, pour une république démocratique et laïque.
21h34 à Paris. En bref, dans l'actualité, la Libye, où un général a été tué par balle chez lui ce dimanche dans la banlieue de Tripoli. On ne connaît pas précisément les circonstances de sa mort, mais le chef du gouvernement d'unité nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli a condamné ce meurtre. Au Nigeria, c'est une attaque djihadiste dans l'état de Borno, au nord-est du pays, qui a fait au moins 14 morts hier. Selon les autorités locales, les victimes sont des agriculteurs et c'est la ville de Pulka qui est située à la frontière du Cameroun qui a été ciblée. Ce n'est pas la première fois, elle a déjà été attaquée à plusieurs reprises par des groupes djihadistes. Toujours en bref, la Sierra Leone, confrontée à une augmentation des cas de Mpox, appelée aussi variole du singe. La Sierra Leone a recensé recensé 177 nouveaux cas ces deux derniers jours au cours d'opérations de dépistage. Le pays avait déclaré l'urgence sanitaire en janvier dès la détection des tout premiers cas de Mpox en vue de mobiliser les ressources nécessaires contre cette maladie virale, une maladie qui est potentiellement mortelle. À Paris, les leaders de l'opposition bissau-guinéenne ont trouvé ce dimanche un terrain d'entente en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Ils sont opposés à la prolongation du mandat de l'actuel président Umaro Mbalo Sissoko, qu'ils considèrent être un danger pour la démocratie. Pendant 3 jours, ils se sont réunis à Paris donc pour trouver une position commune. Et selon l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti d'opposition PAIGC, Domingos Somoes Pereira, les 6 principaux opposants de Guinée-Bissau ont scellé leur entente dans un texte nommé Accord de Paris. On l'écoute.
Vous pouvez me croire qu'on a bien discuté de nos différences, mais à la fin, on s'est accordé que c'est le moment de sauver la démocratie. Le régime de Umaro Sissoko Mbalo est un régime qui veut être autocratique. Il ne respecte pas l'ordre constitutionnel. Et donc, même pour des élections, soit législatives et soit présidentielles, on a pris la décision de travailler dans nos partis respectifs, mobiliser nos bases politiques d'appui pour que ce combat soit mené ensemble.
Pas de candidature commune pour le moment.
C'est pas exclu, mais pour le moment, tout ce qu'on a dit, c'est de préparer nos bases respectives pour y arriver à cet accord.
Voilà, Domingos Simões Pereira au micro de Paul Lorgerie. C'était l'ancien président de l'Assemblée nationale et le président du parti d'opposition PAIGC. L'actualité, c'est aussi l'actualité animale chez les bonhomos. L'un de nos plus proches parents vivants, le plus proche de l'ADN, hein, c'est un peu notre cousin, ce grand singe. Eh bien, les femelles ont pris le pouvoir sur les mâles. Voilà le résultat d'une étude qui a été menée par les biologistes américains et allemands. Elle est parue dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Pourtant, chez les mammifères, la domination des femelles sur les mâles est un phénomène extrêmement rare. Mais grâce à des données récoltées pendant près de 3 décennies sur plusieurs sites en République démocratique du Congo où les bonobos vivent à l'état sauvage, les scientifiques ont démontré que lors des conflits entre mâles et femelles, ces dernières prennent l'ascendant dans 85% des cas. Igor Strauss.
C'est un contraste frappant avec les chimpanzés, leur espèce sœur, chez qui les mâles dominent toutes les femelles avant leur pleine maturité. Chez les bonobos, les femelles ont un statut spécial par rapport aux autres singes puisqu'elles occupent souvent une position sociale plus élevée que les mâles. Un statut qui leur permet de choisir librement leur partenaire sexuel et le moment de la reproduction ou encore de contrôler l'accès aux ressources alimentaires convoitées comme les fruits. Jusqu'alors, 3 hypothèses étaient en concurrence pour expliquer cette domination des femelles. La première, dite d'auto-organisation, suppose qu'en dominant les mâles les moins compétitifs, les femelles pourraient gagner un rang social plus important. La seconde hypothèse est celle du contrôle de la reproduction qui rendrait les mâles moins agressifs et renforcerait à l'occasion le pouvoir des femelles. Et la dernière hypothèse, celle qui a finalement été validée par les scientifiques, est celle de la coalition féminine. Grâce à des alliances soudaines et coordonnées, appelées coalitions, les femelles parviennent à prendre l'ascendant sur les mâles. Pour les chercheurs, ces alliances sont donc un formidable outil de pouvoir chez les mammifères.
Igor Strauss. Le cyclisme avec le départ demain depuis Niki dans le nord du pays de la 20e édition du Tour du Bénin. Plus de 80 coureurs vont s'élancer pour une semaine de compétition. 14 équipes, dont 11 africaines. Un tour très important pour elles. Il s'agit de la seule compétition en Afrique de l'Ouest estampillée UCI, Union Cycliste Internationale. Et c'est tout sauf anodin. Écoutons Romuald Azoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Il est interrogé par Olivier Pron.
Le Bénin est UCI parce que nous avons voulu respecter toute la réglementation en y mettant les moyens, la logistique, le transfert de technologie et le respect des règles de l'Union Cycliste Internationale. Ça a un grand coût, mais c'est aussi une question de volonté et de vision à long terme.
Et c'est important pour les coureurs en priorité.
C'est très important pour les coureurs parce qu'ils existent dans le ranking Africa Tour et qui leur permet de participer non seulement au championnat du monde et au championnat continental, mais aussi de participer aux Jeux Olympiques. Et le fait d'être inscrit à l'UCI nous permet aussi de donner plus de vision à cette compétition qui est dans notre pays et qui fait quand même un minimum de 80 millions de téléspectateurs dans le monde. qui regarde surtout du Bénin.
Et cyclisme encore pour la première fois, une Africaine a remporté une grande classique européenne, la Mauricienne Kim Lecour s'est imposée dans le Liège-Bastogne-Liège.